Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons un invité qui se trouve aussi être candidat à l'élection présidentielle. Je vous le présente dans un instant et ce sera aussi la même chose, normalement, si j'arrive à les avoir en série. Jusqu'à l'élection présidentielle, ces émissions-ci seront consacrées à des candidats. Voilà. À un à chaque fois, bien sûr. Bien. Monsieur le Président David Saforcada, vous êtes d'abord un militaire. Vous êtes un militaire et vous avez fait partie de la troupe d'élite des Marsouins, comme on les dit entre nous, pour les gens qui connaissent et aiment bien et admirent. Marsouin, troupe de marine, donc. Quel grade dans les troupes de marine?
Tout d'abord, bonjour Monsieur Salon et je vous remercie pour votre invitation. Un grade modeste, un simple grade de caporal, mais qui à une époque dans l'armée française était le premier grade parce que c'était le grade des soldats les plus courageux. Donc je suis fier d'avoir été caporal des troupes de marine.
Exactement, et vous faites bien de le dire parce que c'est la réalité. Voilà. Alors, vous le restez au fond de vous-même, vous le présentez d'ailleurs fort bien, on se rend compte qu'on a en face de soi un Marsouin. Bien, alors, dans votre petite notice biographique, il est indiqué aussi que vous êtes formateur dans les métiers de la sécurité privée.
Tout à fait, c'est une reconversion depuis quelques années, effectivement.
Vous êtes membre de plusieurs associations souverainistes et patriotes. Je dirais tout de suite, moi, que vous êtes surtout le président d'une association qui s'appelait France Bonapartiste et qui est devenue l'Appel au Peuple.
Alors, France Bonapartiste existe toujours, mais est restée une association, on va dire, historique. Et l'Appel au Peuple, en fait, c'est la renaissance, si je puis dire, du mouvement bonapartiste historique qui avait été mis en sommeil en 1939 par le prince Napoléon de l'époque.
C'est bien de le préciser. Voilà. Vous êtes donc dans plusieurs associations patriotes. Quelles autres, là, il y en a d'autres?
Alors, bon, on a gravité autour de l'Association pour la souveraineté de la France, créée par Francis Choiseul à l'époque. Donc, on remonte il y a très longtemps, au milieu des années 90. Et ensuite, on est proche de plusieurs associations qui défendent l'idée de la francophonie, notamment. Et après, on a travaillé avec certains mouvements politiques à différentes périodes de notre courte histoire, si je puis dire.
Et j'ajoute que vous êtes membre de notre Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie.
Vous m'avez fait l'honneur de m'y inviter, c'est avec plaisir que je l'ai accepté.
Voilà. Bon, nous sommes actifs, nous essayons d'être actifs. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Alors, je crois que nous avons fait, vous n'avez rien à ajouter au fait que, peut-être vos indications très brèves sur le pourquoi en deux mots, vous êtes candidat à la présidence de la République.
Alors, le pourquoi en deux mots, on est dans une continuité, comme vous l'avez évoqué. J'ai eu une courte carrière militaire, mais qui montre un certain attachement à une certaine idée de la France, on va dire. Et cette candidature, elle est parce que, tout d'abord, je suis bonapartiste, et il n'y a pas d'autres bonapartistes dans le paysage politique national. Et ensuite, pour quelque chose qui est, il faut redonner à la France ce qu'elle a perdu, ou en tout cas ce que nos élites lui ont fait perdre, c'est cette fierté qui l'a fait rayonner dans le monde, et qui fait de la France et du français cette lumière, si je puis dire, qui est capable d'éclairer et de renverser, alors pas forcément de renverser au sens premier du terme, mais de contrecarrer l'hégémonie de d'autres puissances sur le globe actuellement.
J'ai toujours senti que cela, moi, de mon côté, avait, en ce qui vous concerne, et puis que nous pourrions faire encore plus de choses ensemble. Alors, la situation actuelle, elle n'est pas bonne. Je voudrais dire pourquoi elle n'est pas bonne, rapidement. Tout le monde le sait, hein, mais le dire très rapidement et le dire surtout en ce qui concerne le thème principal que nous aurons aujourd'hui, c'est-à-dire non seulement votre programme dans son ensemble, vous allez présenter le programme dans son ensemble lorsque je vous passerai la parole pour ce genre de choses, et puis le programme en particulier, parce que vous en avez un projet pour la francophonie, pour la francophonie organisée, à mieux organiser, vous nous le direz tout à l'heure. Voilà. Alors, et pour cela, je dirais que vous êtes Vous êtes, à ma connaissance actuelle, bien sûr, parmi tous les candidats avec lesquels je, ou à qui j'ai écrit ou auxquels j'ai correspondu lorsqu'ils ont répondu, ce qui n'est pas encore très fréquent, mais ça vient, j'y viens dans un instant, vous tranchez parce que vous êtes le premier à avoir un vrai projet dans ce domaine-là. Les autres, ceux qui m'ont répondu et qui m'ont répondu oui, un très gros oui, engageant, si vous voulez, je les citerai tout à l'heure, ouais. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a deux, d'autres. Bon, mais ceux-là n'ont pas précisé de projet particulier. Ils défendront vraiment au premier rang la langue française, en première priorité, voilà ce à quoi ils sont engagés, ce qui est beaucoup, c'est ce que je demandais. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette campagne que le Haut Conseil pour le Haut Conseil international pour la langue française et la langue et la francophonie a mis en œuvre cette campagne depuis un an, c'est justement pour obtenir de tous les candidats, si possible, en tout cas du plus grand nombre possible d'entre eux, l'engagement de faire de la langue française une tâche, un but, un objectif prioritaire. Prioritaire, c'est ça le problème. Voilà, prioritaire. Nous avons le sentiment que vous avez un projet dont vous allez nous parler qui est tout à fait intéressant. Voilà, alors pourquoi est-ce que la situation est particulièrement grave en ce qui concerne le français ? Il faut rappeler d'abord que le français, il a été la première préoccupation, ça n'est plus le cas à l'heure actuelle, on le constate bien sûr, ça n'est même plus dans l'esprit des gens, et je vais vous dire pourquoi. Enfin, je vais rappeler pour nos auditeurs qui ont déjà entendu ça un peu, c'est tout à fait évident pour certains, mais il est d'évidence que les Français ont été écarté de toute idée de fondamentaux culturels et de priorité pour la langue française pendant le demi-siècle dans lequel nous vivons encore. Ce demi-siècle a commencé en 1974. Entre 1958 et 1974, il y avait une période extraordinairement brillante dans bien des domaines, y compris économique, y compris enfin, le concours de tout ce que vous savez, tout ce que vous allez revoir dans le film sur la bataille de Gaulle, allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu dans sa première partie et dans sa deuxième partie, c'est excellent. Il y a déjà 800 000 personnes, me dit-on, qui sont allées le voir en première partie. J'ai commencé à aller le voir en deuxième partie, c'était hier, la salle était comble. Précipitez-vous, c'est un film français remarquable et qui regonfle la nation. Voilà. Et c'est le moment... Monsieur Retailleau, l'une des choses intéressantes dans son programme à lui, c'est de dire nous entrons dans un moment gaullien, c'est ce que nous étions plusieurs à sentir, c'est ce que vous, je crois, sentez aussi, gaullien ou en tout cas national. Voilà. Alors, pendant donc des siècles, ça a été une priorité des gouvernements français, des régimes français successifs. Nos rois, bien sûr, nos républiques, et entre ou dans les interstices des deux, les napoléoniens, Napoléon Ier et Napoléon III, les bonapartistes en quelque sorte. Bien. Ça a été une préoccupation principale. Pourquoi ? Ben parce que la France, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Allemagne, avec une langue déjà répandue dans tout le territoire qu'ils ont actuellement, répandue depuis longtemps. La France, c'était une mosaïque de langues, de régions, de langues, etc. Et c'est seulement en Île-de-France et dans les pays de la Loire, etc., que vraiment le français était de racine très bien vu, etc. Et heureusement, il y avait des écrivains dedans qui ont beaucoup, parce que la France est aussi une nation littéraire, et c'est aussi comme ça que le français s'est développé, pas seulement par la force des rois et des armes, c'est aussi par la littérature. Et la littérature, elle venait effectivement, la grande littérature, il y en avait en Occitanie, bien sûr, il y en avait en Occitanie, mais la littérature qui s'est répandue le plus facilement, en tout cas, ça a été la langue française dans ces régions d'origine. Voilà. Donc, ça a été une préoccupation essentielle, la langue française, parce qu'il fallait conforter, voire faire, dans certains cas, l'union nationale, avec du bric et de broc, avec le bric et le broc, avec la Bretagne, avec l'Alsace, beaucoup plus tard là, que la Bretagne, avec d'autres, effectivement. Voilà. Donc, c'était une préoccupation de politique intérieure numéro un. Et c'était, ça on l'ignore généralement, aussi, c'est devenu, à la même époque de François Ier qui nous faisait pour la politique intérieure, la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, vous connaissez ça, chers auditeurs, on en a déjà parlé, mais il y a eu autre chose. Sous le même François Ier, ça a été la conclusion d'un traité extraordinaire qui s'appelait les capitulations. Personne ne capitulait, c'était un ensemble de chapitres, capitulés, etc. Bon, chapitres. Un ensemble de chapitres du traité en question qui traitait effectivement de beaucoup de choses. Dont quoi ? L'attribution à la France de l'exclusivité de la protection des chrétiens d'Orient. Et l'Orient, c'était essentiellement l'Empire ottoman de l'époque. C'était la Sublime Porte, c'était Soliman le Magnifique, avec qui François Ier a traité. C'était un traité extraordinaire qui donnait ça à la France. Ça a été un atout considérable d'influence extérieure. Et il se trouvait que la France était déjà une pourvoyeuse majoritaire parmi les pays chrétiens. Mais c'était la France chrétienne, c'est bien connu, enfin, elle a eu sa réforme, mais elle a été d'abord et surtout une France chrétienne, enfin chrétienne catholique, catholique. Donc la religion catholique, les protestants s'y sont mis ensuite, envoyaient aussi beaucoup de missionnaires ailleurs, là où il fallait aider la diffusion du christianisme, du catholicisme, et puis du protestantisme. Mmh. Les protestants à partir de 1822. Voilà. Alors, l'Empire ottoman, ça allait jusqu'aux frontières du Maroc. Ça allait au-delà, enfin tout le Moyen-Orient actuel, c'est clair, hein, y compris l'Arabie Saoudite, enfin tout ce que vous voyez se battre en ce moment pour diverses raisons. Voilà. Donc c'était fantastique. Et parce que ces missionnaires, ils créaient des écoles et enseignaient le français. C'était donc aussi une préoccupation très très tôt de politique étrangère, de soutien aux missionnaires, au moins par le canal, si on ne soutenait pas leur religion, parce que en pays turc notamment c'était plutôt dangereux, mais en soutenant leurs œuvres charitables et leurs œuvres d'enseignement, l'enseignement et les œuvres charitables. Voilà. Alors ça a été ça pendant 5 siècles. Y compris la fameuse grande période éclatante dans ce domaine aussi de Gaulle. 1974, arrive Giscard, une conférence de presse moitié en anglais, pour donner le signal de quoi ? On ne s'en est pas rendu compte à l'époque, parce que les gens étaient habitués au confort, si j'ose dire, de la prospérité, de l'absence de dette. Enfin, vous imaginez, vous vous souvenez de l'époque, pour ceux qui l'ont connu. Bon, ça n'a rien à voir avec la période actuelle. Bien. Eh bien, les gens étaient habitués à tout ce confort-là, si vous voulez. Puis, bon, ils ont vu un Giscard qui arrive, qui était d'ailleurs brillant, un inspecteur des finances, bien sûr, il faut ça. Il y en a eu d'autres. Et puis, un monsieur qui semblait déterminé à travailler pour la France. Voilà. Simplement, ça n'a pas tout à fait le cas. Ce n'a pas été tout à fait le cas, pas tout à fait, notamment dans notre domaine. Voilà. Alors, ça a annoncé 3 choses cruciales qui nous permettent de comprendre la chute dans laquelle nous nous trouvons actuellement, le degré d'abaissement dans lequel nous avons été réduits par nos gouvernements successifs qui y ont beaucoup participé, et surtout le dernier, l'actuel. Surtout le dernier à partir de 2017, en ce qui concerne la langue française. Voilà, alors ça a été une période où a commencé trois choses. D'une part, le déclin du français, puis terminé par une véritable attaque criminelle contre le français à partir de 2017 par M. Macron. Le français attaqué comme langue des institutions européennes, et le français attaqué comme langue olympique, ensuite en 2024, alors qu'on nous promettait au printemps 2024 que vous allez voir ce que vous allez voir, le français va, puisqu'il est à la fois la langue officielle des Jeux Olympiques et en plus la langue du pays hôte cette année 2024, vous allez voir ce que vous allez voir. L'anglais a certes beaucoup progressé, mais là, vous allez l'entendre, l'anglais, vous allez le lire, vous allez, etc., avec les Jeux. On l'a entendu, oui, mais on ne l'a pas lu, parce que tout ce qui était écrit était en anglais, non traduit. Oui. Alors, j'en termine là-dessus. J'en termine parce qu'il faut venir à vous maintenant et à ce que vous voulez faire, c'est important. Mais là, je termine en disant que c'était en même temps le début d'un demi-siècle, puisque c'est bien un demi-siècle, le début du remplacement de la priorité à la politique par une priorité à l'économie et aux finances, le matérialisme. Et ça allait de pair avec la revassalisation, c'est le troisième point, la revassalisation de la France à l'Empire. Nous y sommes complètement à l'heure actuelle, mais complètement vassaux. Ça s'est fait progressivement à partir de 1974. Parce que de Gaulle, en 1958, il avait très vite réglé tout ça, à la fois la dette et la soumission aux États-Unis. Voilà. Alors, monsieur, vous êtes face à tout ça. Vous avez, un programme, vous allez nous dire quelque chose de général, si vous voulez, sur votre programme, mais surtout, nous allons en venir après sur ce que vous projetez pour la langue française et la francophonie.
Avec plaisir. Mais je me permettrai de rebondir rapidement sur ce que vous avez dit. Et une des choses qui porte atteinte à la langue française, on va dire, c'est le côté économique, et notamment dans le sport. Et Dieu sait que je suis un fan de sport. Avec mon accent, vous vous doutez bien que depuis samedi soir, je suis un des plus heureux de la Terre avec le quatrième titre du Stade Toulousain. Mais la chose qui m'a...
Bravo pour le Stade
Merci.
Toulousain.
Merci. Mais
je n'avais pas suivi ça.
Mais la chose qui m'a le plus marqué, c'est que le Stade Toulousain, que je respecte comme institution, a immédiatement fait du marketing et pour célébrer son quatrième bouclier de Brennus d'affilée, a sorti des t-shirts avec l'épitaphe « Back for Back ». Vous voyez ce que je veux dire. Donc même là, et pour faire le clin d'œil au PSG avec son back to back. Donc bon, donc c'était pour le petit clin d'œil et pour dire effectivement que le sport, l'institution olympique, elle aussi a été gangrénée et que le sport économique y est pour quelque chose. Sinon, pour rebondir par rapport aux idées que je défends, les idées que je défends, on va dire qu'elles sont simples, elles tournent autour d'un slogan qui est Parions France. Et Parions France, c'est retrouver nos souverainetés. Parce que je pars du principe qu'il y a une souveraineté, mais dans cette souveraineté, il y en a plusieurs. Il y a la souveraineté nationale, l'indépendance de notre pays, qui passe par le français, justement. Il y a aussi la souveraineté populaire, de redonner sa parole au peuple via le référendum, et on pourra le développer si vous le souhaitez. Il y a ensuite la souveraineté économique et agricole. Je mets les deux ensemble, bien que parfois on pourrait séparer l'agriculture de l'économie, parce que l'agriculture n'est pas une économie comme les autres.
C'est pas une économie comme les autres. Voilà. C'est une partie française.
C'est un de nos piliers, tout à fait. Et enfin, la dernière, qui est ce que nous appelons la souveraineté culturelle, dans laquelle aussi le français a une large part, que ça soit pour la politique intérieure, mais aussi pour le pouvoir extérieur, si je puis dire, l'influence que peut avoir la France sur le reste du monde.
Vous n'avez pas voulu dire, et je vous félicite, vous n'avez pas voulu prononcer le fameux soft power.
Nous sommes bien d'accord.
Nous sommes bien d'accord.
donc ce programme va tourner autour de ces piliers, mais je voudrais préciser quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, parfois, on me dit que votre programme n'est pas assez détaillé, etc. etc. Et effectivement, et c'est quelque chose qui est voulu, parce que moi, je pars du principe qu'en fait, aujourd'hui, il y a deux chemins. un chemin qui est celui où la France, sur lequel la France retrouverait sa totale indépendance, et donc un politique, le chef de l'État, serait libre de mettre en place la politique pour laquelle il a été élu. Et le deuxième chemin, malheureusement, c'est celui dans lequel nous sommes, c'est-à-dire qu'au-dessus de nous, il y a des institutions européennes qui vont brider sur de nombreux sujets. Donc pour moi, en fait, tout programme politique ne part d'une chose qui est simple, c'est de redonner la parole au peuple français. Quel avenir souhaitez-vous pour la France? Souhaitez-vous ce que moi j'appelle la sortif, c'est-à-dire voulez-vous que la France retrouve son entière souveraineté, pardon, ou souhaitez-vous qu'elle continue dans cette espèce d'européisme fédéraliste qui est actuel et qui donc du coup briderait la mise en place de certains programmes? C'est la réponse à cette question qui pour moi est fondamentale, qui amènera ensuite sur un chemin ou sur un autre en fait. Aujourd'hui, vendre un programme, c'est quelque part, je dis bien quelque part, se moquer un peu des Français, parce qu'on sait très bien que beaucoup de choses qu'on promet, on ne pourra pas forcément les mettre en place, parce qu'au-dessus, il y aura la Commission de Bruxelles, il y aura la Cour européenne des droits de l'homme, etc., qui nous bridera.
Hélas, il va falloir déblayer un peu ça.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, concernant le français, hein, ce qui nous intéresse, il va y avoir, donc, je vous disais, ma candidature, c'est de redonner aux Français cet esprit, ce sens de la fierté française. Et le français est quelque chose qui ramène à la fierté française par la culture. Vous parliez tout à l'heure de ces écrivaines de langue d'oeil qui avaient s'aimé sur l'ensemble du territoire national. Bon, au passage, moi, je me rappelle que nous avions les troubadours en langue d'oc.
Mais, j'ai bien cité l'Occitanie. Hein, je suis assez cultivé pour le savoir.
Ah, je ne mettais absolument pas ça en doute. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que la lecture, nos écrivains permettent cette fierté française. Et je rebondirai, vous avez évoqué mon passé de militaire, et il m'a été donné de pouvoir aller voir la bibliothèque municipale d'Abéché au Tchad, au nord-est du Tchad. Et je peux vous dire que je n'ai jamais vu autant de magnifiques livres, du Balzac, du Zola, même du Victor Hugo, que pourtant je ne porte pas dans mon cœur, mais même du Victor Hugo au fin fond du Tchad. Donc ce qui prouve le rayonnement de la langue française et qui peut nous amener cette fierté. Donc cette langue française, il faut la retrouver, que ça soit aussi bien à l'école, reapprendre le français dans tout ce qu'il a dans tout ce qu'il y a de profond, d'autant plus que réapprendre le français, c'est aussi une part importante de l'assimilation. Si aujourd'hui on pense que de nombreux jeunes ne se sentent plus français, mais c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément la langue. Et moi qui suis formateur pour jeunes adultes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, des personnes en reconversion, je peux me rendre compte que il y a de nombreuses lacunes en français, une perte globale de vocabulaire.
C'est fou. On a voulu faire oublier aux Français leur langue.
On a surtout voulu la simplifier, et parce que ça va beaucoup
on
plus
vite. On l'a tué dans les écoles.
On a tué dans les écoles et puis on l'a tué un peu partout parce que c'est beaucoup plus simple d'envoyer des textos que de rédiger un texte abouti, si je puis dire. Donc ça, c'est la première partie, c'est le français sur le territoire national via l'éducation nationale, mais pas que, via aussi nos médias, via aussi le sport. C'est ce que je vous disais, le Stade Toulousain avec Back for Back. Bon, c'est très bien parce que c'est très bien. Ça amène de l'économie, ça va permettre de vendre plus de t-shirts ou de casquettes. Mais pour moi, c'est pas comme ça qu'on va ramener le français dans les chaumières, si je puis dire. Et ensuite, on a aussi un gros programme qui est celui qui va toucher à la francophonie et qui est l'Union francophone.
Mais attendez, avant, si vous voulez, j'aimerais que vous me disiez quelque chose parce que vous avez dans votre papier.
Oui.
Des considérations propres, naturellement, ça s'impose, sur l'Afrique. La proportion, évidemment, de francophones, c'est à peu près 65%.
C'est ça.
De locuteurs de français, locuteurs capables de parler le français. Et c'est en Afrique, les 65%.
Oui.
Des 400 millions ou des 396 millions, comme nous le dit Madame Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, enfin de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, ça fait beaucoup, l'Afrique, mais avec ce que nous disions tout à l'heure avant d'entrer dans cette salle, sur ce qui se passe de la part de nos alliés ennemis, comme de la part de nos ennemis traditionnels, sans parler de la Chine, de la Russie, etc., qui ne sont pas nos ennemis traditionnels, eh bien, ils le sont dans l'action en Afrique pour nous virer, si vous voulez bien, de l'Afrique, nous remplacer de l'Afrique, ça c'est à l'œuvre depuis longtemps, et ça a été particulièrement accentué depuis 2017, là aussi, où on a vu le Burkina Faso, le Mali d'abord, le Burkina Faso ensuite, et pourtant Dieu sait si le Burkina Faso, moi qui suis un ancien du ministère de la Coopération, chef de mission de coopération dans un pays du continent africain, eh bien, je boue en voyant ça, je boue. Le Burkina Faso était un des plus proches, un des plus, voilà, sentimentalement. Oui. Ben, le Burkina Faso, c'est lui de même qui vient de rompre ses relations diplomatiques, là, ces jours-ci, avec la France. Non seulement il était parti de l'Organisation internationale de la francophonie, comme les trois autres que je cite, mais il rompt ses relations diplomatiques avec la France, en précisant qu'il ne rompt pas le reste, les relations culturelles, etc. Très bien, mais enfin, c'est quand même énorme, énorme. Ça ne se serait pas passé, même sous Chirac.
Alors, je pense qu'il y a, il y a quand même un tournant qui débute sous Chirac. Alors, peut-être pas au Sahel, mais par exemple en Côte d'Ivoire, c'est parce que je pense qu'on n'a pas vu le tournant que vivait l'Afrique, et on a continué à considérer que ils étaient redevables,
c'était notre précaré,
et on n'a pas su accompagner justement leur souveraineté, qui nous aurait permis de continuer à travailler avec eux.
Là aussi, honte à notre classe dirigeante.
Ben, notre classe dirigeante qui n'a pas compris que oui, c'est pas faux, mais qui n'ont cette classe politique, mais encore une fois, hein, je pense que là, pour le coup, le dernier grand, hein, si je puis dire, africain, si je peux le nommer ainsi, c'est François Mitterrand, je pense, et à partir de François Mitterrand, on a eu cette décadence, bon, avec le point d'orgue de Nicolas Sarkozy, avec l'intervention en Libye, qui a mis le feu aux poudres, et ensuite, malheureusement, donc, au Sahel, comme vous le dites, par rapport au terrorisme islamiste, où l'opération Serval, on peut le mettre sur le compte de François Hollande, était une opération qui a réussi.
Elle-même était bonne.
Voilà. Ensuite, c'est le reste. Comment vouloir sécuriser un territoire qui est grand comme l'Europe avec quelques milliers d'hommes, et aussi en ne permettant pas aux États qui avaient fait appel à nous de participer réellement à cette défense contre le terrorisme islamiste. Mais c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, en Afrique, on veut s'occuper de tout, ce qui fait qu'on ne s'occupe de rien. Et surtout, on veut leur transmettre la vision qui serait la nôtre et qui n'est pas adaptable au continent africain, en tout cas à l'heure actuelle, ce qui va concerner la question des genres, la question des évolutions sociétales, etc. Le continent africain n'est pas l'Europe. Ils ont une vision qui est différente. Il faut accepter et être capable de faire comme nos concurrents, parfois, bah, de s'occuper de ce qui est principal et de laisser à chaque pays le soin de se gérer comme il le souhaite. Et c'est un peu le but de l'Union francophone. C'est tout le monde est maître chez soi, mais on travaille en bonne harmonie sur des sujets, sur différents sujets, pour tirer tout le monde vers le haut.
Mais attendez, avant d'y arriver,
oui, bien sûr.
Moi, mais avant d'y arriver, il y a encore une autre chose. Vous traitez aussi le cas de l'Algérie, qui est tout à fait particulier.
Alors, oui. Alors, l'Algérie, je pense que le problème de l'Algérie, c'est que les dirigeants algériens, et ce depuis quasiment...
Sur le plan de la langue, bien sûr.
Alors, sur le plan de la langue, l'Algérie fait partie de ces pays où on retrouve le plus de locuteurs francophones.
Exact.
Donc, on ne peut pas parler de francophonie sans parler de l'Algérie. C'est impossible. Ce qui amènera des problématiques, parce que l'autre grand pays, c'est le Maroc, et donc il va falloir trouver des points d'entente entre ces deux grands pays au niveau de la francophonie. Mais l'Algérie, on a ce problème, c'est que...
L'Algérie, d'ailleurs, n'est pas membre officiellement de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui. Elle est membre de la francophonie avec un petit F, c'est-à-dire des gens qui parlent français, en partie. Mais elle n'est pas dans la francophonie, alors que le Maroc, lui...
Le Maroc, il est... Mais l'Algérie, je vais dire, ça se comprend, parce que dans la francophonie, il y a France, il y a Français, et depuis l'indépendance, ils n'ont jamais soldé toutes les problématiques qu'ils rejettent à chaque fois sur la France, et donc c'est compliqué pour eux de tout rejeter sur la France, et de notre côté, d'être dans la sphère francophone, officiellement en tout cas. Donc moi je pense que le problème de l'Algérie se réglera, mais il se réglera le jour où les Algériens décideront, eux, de faire table rase du passé et d'avancer, un peu comme l'a fait le Vietnam. Le Vietnam n'a jamais ressassé la colonisation. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils se sont projetés.
Bienvenue au Vietnam.
Et aujourd'hui, le Vietnam remet un pied dans la francophonie d'une façon magnifique. Et pour moi, le Vietnam doit être un point d'appui de la francophonie sur la partie asiatique. Tout comme le Cambodge, d'ailleurs.
J'allais le dire.
Tout comme le Cambodge. Mais l'Algérie, oui, l'Algérie est un problème.
Le Vietnam et le Cambodge, c'était quand même très différent.
Oui.
Parce qu'au Cambodge, il n'y a pas eu la vraie guerre qu'il y a eu au Vietnam.
Avec les Français, nous sommes bien d'accord.
Français,
mais par contre, c'est M. Sihanouk qui est un des créateurs de la francophonie, avec Senghor.
Exactement.
Contre, il n'y avait pas les dirigeants de l'Algérie.
Bien. Bon, alors voilà, l'Afrique, l'Algérie, etc. Donc ensuite, on peut arriver effectivement à votre plan, là. Votre plan éducatif et votre plan francophonie.
Alors, oui, parce que en fait, on se rend compte que sur le territoire, sur le continent africain, c'est là où est aujourd'hui le cœur de la francophonie. Donc, comme vous le rappeliez, 60%, 65% des francophones se trouvent sur le continent africain, mais pas que. Il y a aujourd'hui, sur le globe, 26 pays où le français est la langue officielle. Bon, encore une fois, la plupart sont sur le continent africain, mais il ne faut pas oublier nos cousins du Canada. Il ne faut pas oublier
de Suisse,
etc. Le Liban aussi, malheureusement, ce pauvre Liban qui est martyrisé aujourd'hui. Enfin, ça fait très longtemps qu'il est martyrisé. Et donc, en fait, nous avons dans l'idée de dépasser l'Organisation internationale de la francophonie, qui est quelque chose de très bien, mais qui est culturel. Et c'est très bien. Par contre, il faut aller plus loin. Il faut créer une entente entre les pays francophones qui soit aussi économique, qui permette le développement et qui permette d'être le bloc entre ce fameux bloc occidental que certains dénoncent autour des États-Unis, et le bloc des BRICS de notre côté. La France et la francophonie doivent avoir leur place. Mais une place dans le donnant. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à lire le dernier ouvrage du colonel De Jong, Out of Africa, en référence au film, dans lequel il nous explique que, en fait, tout passera par des coopérations gagnant-gagnant avec les pays, notamment les pays d'Afrique.
Évidemment.
Ce qui permettra l'aide au développement de ces pays, et ça fera plaisir à certains. Plus un pays va se développer, moins ses habitants auront besoin d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, et donc on pourra jouer aussi sur les problèmes d'immigration, etc., mais aussi sur les problèmes d'industrialisation et autres.
Oui, alors ce qui concerne, nous allons y revenir tout de suite, parce que c'est très important, ça, nous sommes dans le cœur du sujet. Mais je voulais faire une petite observation en ce qui concerne l'Organisation internationale de la francophonie. Vous dites que c'est une organisation qui a été faite pour être culturelle, essentiellement, c'est vrai. Mais on pensait déjà à l'époque de faire aussi autre chose, mais ça n'a pas été fait. Notre classe politique n'a pas suivi, si j'ose dire. Bien. Mais il se passe la chose suivante, c'est que là encore, le président de la République actuelle, je sais bien que ne développe pas. Le président de la République actuelle est responsable là aussi de ce qui se passe en ce qui concerne l'Organisation internationale de la francophonie, où elle fait. Madame Mushikiwabo, attention, soyons honnêtes, elle fait un travail concret, sérieux, dans le domaine qu'on lui a laissé. Donc. Mais Madame Mushikiwabo a été mise là, surtout parce qu'elle était la ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame, au Rwanda, dont nous connaissons les relations avec la France. Monsieur Macron s'est servi, si vous voulez, de ce geste-là pour essayer de calmer Paul Kagame.
Tout à fait, tout à fait.
Comme il le fait maintenant, au 14 juillet, en mettant... Vous savez ce qu'il va faire pour le 14 juillet, les Ukrainiens qui défilent, entre autres. Bien, avec la présence de Ursula von der Leyen, il faut ça.
Oui, c'est malheureusement...
Macron fait ça, et elle a été ensuite réélue, toujours sous Macron. Mm-hmm. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on a une organisation internationale de la francophonie, j'en reviens maintenant à votre projet, qui n'est pas du tout ce que vous voulez faire, qui est resté stagnant, en fait.
Oui, non, mais tout à fait, mais il reste stagnant aussi.
Et plusieurs en sont sortis, comme nous le disions tout à l'heure.
Oui, mais il reste stagnant, pourquoi ? Parce qu'on a aussi cette vision... française, je vais dire, de domination. Rappelez-vous le président Macron, justement, au Burkina Faso, qui demande au président de l'époque d'aller vérifier la climatisation.
Oui.
Bon, ben lorsqu'on en est là, ça prouve bien le niveau de respect qui n'existe pas. Alors qu'au contraire...
C'est le même respect que Trump a à l'égard de Macron.
Mais exactement. Donc voilà, mais on est toujours irrespectueux avec plus faible que soi, entre guillemets. Généralement, on n'est jamais irrespectueux avec plus fort que soi, généralement. Mais ce que je veux dire, c'est en fait, c'est tout ce paradigme qu'il faut changer. Et comme je vous disais, c'est du gagnant-gagnant, d'autant plus que certains pays africains ont compris où était l'évolution vers laquelle il fallait aller. Je prends l'exemple du Bénin. Le Bénin a compris qu'en fait, c'était très bien de produire du coton et de le vendre à la Chine, à perte, mais que c'était beaucoup plus intéressant de transformer la matière première sur le territoire national. Donc le Bénin s'industrialise, notamment dans tout ce qui est vêtements, etc. La Côte d'Ivoire, si je ne dis pas de bêtises, je crois
pas
que c'est
le coton, mais...
Je crois que le Togo aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, et donc c'est là où on peut... s'entraider sur le développement économique. Et ensuite, il y a des choses que tout le monde ne le voit pas forcément, mais des pays qui n'étaient pas dans la sphère francophone, des pays africains, comme par exemple l'Angola, le Mozambique, se rapprochent. Et d'ailleurs, l'Angola a mis la langue française obligatoire.
Je l'ai dit dans mon...
Nous n'avons pas été nombreux à le souligner, d'ailleurs.
Oui.
Tout comme le Mozambique. Alors, le Mozambique, c'est un peu différent, mais le Mozambique se rapproche aussi de la sphère francophone et d'autres pays, comme la Zambie et d'autres. Donc, en fait, la francophonie peut ouvrir des portes, qu'elles soient économiques... dans la recherche et le développement et autres. Madagascar aussi. Madagascar, il faut qu'on arrive à renouer des relations intéressantes avec Madagascar par rapport aux Chinois et aux Russes. Et sur ça, d'ailleurs, il faudra qu'on s'appuie sur nos territoires d'outre-mer qui ont un rôle important à jouer.
Donc, ils sont négligés, eux aussi, nos territoires d'outre-mer.
Mais nos territoires d'outre-mer sont négligés. La situation, par exemple, à Mayotte est catastrophique. Donc, il faut en fait... pour moi, c'est un tout, en fait. Nous défendons deux grands projets. Donc, il y a le projet de l'Union francophone, donc, qui est, comme vous l'avez compris, économique, mais qui est aussi culturel, qui est un projet de défense, de recherche et de développement. Et il y a un deuxième projet, qui est le projet que l'on appelle France sur mer, qui est le développement de nos outre-mer en s'appuyant sur toutes leurs richesses qui aujourd'hui ne sont pas exploitées. Alors attention, quand je parle de richesses non exploitées, par contre, je ne fais pas référence, par exemple, comme aux hydrocarbures dans la Guyane, parce que je pense justement, contrairement au Rassemblement national, qu'il faut laisser nos hydrocarbures là où ils sont, parce qu'en plus, on n'a pas la certitude qu'ils seront exploités par des Français. L'ombre américaine ou l'ombre chinoise ne sont pas loin. Donc, par contre, il faut se servir de nos richesses, notamment halieutiques, dans tout ce qui va être la recherche et développement, dans les biocarburants avec les algues et autres, et non pas forcément aller chercher nos hydrocarbures. Donc quand je parle de richesse, je ne pensais pas forcément à ça, mais à tout le reste, à tout ce que la mer, nos territoires d'outre-mer peuvent nous apporter, mais aussi dans nos relations avec la francophonie. La Réunion, par exemple, dans l'océan Indien, peut être un pont entre l'Asie, c'est-à-dire le Vietnam, Madagascar et l'Afrique, mais aussi avec tout ce qui est câbles sous-marins, etc., etc. Donc en fait, on a un potentiel phénoménal que personne n'ose exploiter. Pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre.
Eh oui. Impuissance. C'est terrible. Bon, dites-moi, il y a un point qui est important dans votre projet, dans ce projet que je trouve très séduisant, évidemment, parce que nous y pensions, c'est la sécurité. Et vous êtes un homme de la sécurité, justement.
Tout à fait.
Alors, vous le soulignez d'ailleurs dans votre papier, mais ça existe déjà, l'importance de la langue française dans ce domaine de la sécurité à l'intérieur de la francophonie. Mmh. C'est ce qui permet d'avoir, y compris avec l'Algérie, des relations qui restent malgré tout utiles pour l'un et pour l'autre.
De toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas mis en avant, ce n'est pas mis sous les projecteurs parce ça n'intéresse pas, ou alors pour des raisons de sécurité, justement.
Mais parlez-nous-en, faites comprendre ça à nos auditeurs.
Mais aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai un très bon ami à moi qui... il se trouve qu'il n'y va plus à cause de la situation actuelle, mais qui faisait des séjours réguliers au Mali pour former la police malienne, notamment par rapport au narcotrafic, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle de drogue, on parle beaucoup de l'Amérique du Sud, mais il faut savoir que malheureusement, l'Afrique est une terre où les narcotrafiquants sont installés. Bon, il y a bien entendu au Maroc avec tout ce qui va être le hashish, etc., mais toutes les drogues de synthèse ou autres, il y a de nombreux problèmes en Afrique par rapport à ça, et donc il y a de nombreuses coopérations, alors que ça soit au niveau police, mais au niveau militaire. Et d'ailleurs, c'est justement pour ça lorsque l'on voit Wagner aujourd'hui appelé Africa Corps, d'ailleurs ça fait sourire quand on parle de l'Africa Corps, mais bon, la France, nous avons des relations, et vous l'avez connu, nous avons des relations avec ces pays africains, notamment au niveau de la défense, qui sont des relations fortes, et la France devrait participer encore plus à ça, à la formation des États, enfin des militaires de ces États francophones, pour justement permettre de lutter contre la montée de l'islamisme, mais pas que, parce que moi je pars du principe que une de nos frontières dans la lutte, enfin une de nos frontières face au terrorisme islamiste, c'est pas à Marseille, c'est pas à Toulon, mais c'est à Bamako, c'est à Yaoundé, etc., etc. Donc on se doit d'aider ces différents pays, et c'est ce qui se fait, mais pas à Béché, par exemple. D'ailleurs, les Tchadiens nous ont mis dehors. Mais ils nous ont rappelé, alors pas forcément ouvertement et officiellement,
oui,
mais ils nous ont quand même...
J'ai vu, voilà. C'est le quatrième.
Ouais. Oui, bon, après, si je fais une parenthèse sur le Tchad et la France, ça a toujours été « je t'aime, moi non plus ». Ils nous ont mis dehors, ils nous ont rappelé, ils nous ont remis dehors, ils nous ont rappelé. Enfin, c'est une grande histoire avec le Tchad.
Oui, oui, oui.
Enfin, de toute façon, tous les Marseillais sont amoureux du Tchad, donc voilà, c'est comme ça, ça fait partie de nos rêves. On parlait du mal jaune, mais il y a le mal tchadien aussi pour les Marseillais. Mais effectivement, la sécurité...
Vous allez revoir le désert dans le film avec Leclerc, hein, là.
Il me tarde.
Leclerc notamment. Vous savez, et c'est très bien fait dans le film.
Il me tarde. Le désert manque parfois. Mais voilà, c'est très important. Vous prenez un pays qui pourtant est un pays, on va le qualifier d'islamique, si je puis dire, c'est la Mauritanie. En Mauritanie, la coopération militaire entre la France, enfin, coopération privée et étatique, si je puis dire, entre la France et l'armée mauritanienne, est quelque chose de fantastique.
Mais ils sont moins excités en Mauritanie.
Mais en Mauritanie, c'est de l'islamisme, mais léger, si je puis dire. Voilà. Bon, après, ensuite, si j'étais une femme mauritanienne, j'aurais peut-être pas les mêmes propos.
Oui, mais, d'accord. Mais parce que les femmes sont quand même très bien traitées.
Voilà,
c'est pas agressif.
Voilà, tout à fait. Mais ce que je veux dire, pour en revenir à la sécurité, en fait, il faut être capable de travailler avec ces pays-là, parce que leur insécurité chez eux, automatiquement, se transforme en insécurité chez nous. Et on l'a vu encore une fois avec la Libye. Si nous n'étions pas intervenus en Libye, ça n'aurait pas libéré tout ce que ça a libéré, qui pour l'instant se cantonne au Sahel, malheureusement. Et je pense à ces pauvres peuples maliens, burkinabés et nigériens, avec ce qu'ils vivent, mais quelque part de notre faute.
Ils en souffrent énormément, ils sont déplacés, assassinés, les femmes sont violées en quantité.
On a cassé ce continuum, si je puis dire, de sécurité, avec M. Kadhafi. Après, on passe ce qu'on veut de M. Kadhafi, mais il avait un point important sur la sécurité du continent. Et nous, on doit recommencer à travailler, mais encore une fois, de façon intelligente. Et ça ne pourra se faire que si on prend exemple sur ce qui se fait actuellement aujourd'hui, avec le partenariat public-privé au sein de la défense, qui va permettre cette association et ce développement des formations sur le continent africain. L'époque des Bob Denard est révolue. Hein.
Alors, vous dites dans votre chose, et j'aimerais bien que vous développiez un petit peu ça. Ainsi, politique de développement et politique migratoire ne s'opposent pas, elles se complètent. Sur ce plan-là, est-ce que vous pourriez dire des choses complémentaires, là, justement ? Préciser un peu à nos auditeurs comment elles se complètent vraiment.
Ouais, en fait, si vous développez l'industrie, si vous développez l'éducation sur le continent africain, avec un niveau de vie qui s'élève, avec l'accès à la modernité, si je puis dire, vous allez réduire forcément l'envie des populations d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte.
C'est l'argument tout à fait qui s'impose. Mais il y a un contre-argument que l'on répand volontiers à l'heure actuelle, c'est de dire, mais regardez, les gens qui immigrent, les clandestins, etc., tout ça, qui cherchent à tout prix à venir en France, ben, c'est les gens qui peuvent se payer le voyage, ce n'est pas les plus pauvres.
Alors là, je ne rentrerai pas dans ce débat.
Vous voyez ce que ça veut dire?
Oui, mais je ne rentrerai pas dans ce débat parce que, effectivement, je n'ai pas les tarifs, je ne connais pas les tarifs, mais j'ose imaginer que les passeurs doivent allègrement se remplir les poches.
Ah ben, ils se remplissent les poches.
Tout à fait.
Mais il faut trouver l'argent pour se remplir les poches.
Il faut trouver l'argent, mais je pense que malheureusement, aujourd'hui, lorsque l'on veut vraiment quitter une situation que l'on considère comme catastrophique, voire pire, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle sa propre vie peut être en danger, je pense qu'on est prêt à faire des sacrifices et potentiellement à vendre tout ce qu'on possède, et voire même plus. Oui. Parce que ce qu'on ne soupçonne pas derrière...
C'est gros, les frais, hein, c'est gros.
Non, mais ce qu'on ne soupçonne pas derrière, c'est toute la mafia, entre guillemets, qui peut être là. Ouais. Et potentiellement, malheureusement, le coût d'une traversée, ça peut être le coût d'une petite sœur qu'on va laisser à des passeurs pour de la prostitution.
Ouais.
Ça
ouais.
peut être le coût
c'est
du
vrai.
Trafic de drogue, etc. Donc en fait, pour moi, c'est beaucoup plus...
C'est vrai, vous avez raison là-dessus.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour être allé dans des zones, on va dire, de guerre, je peux vous dire que la misère... parfois mène à faire des choses que... Je ne pense pas que tous les réfugiés espagnols étaient tous des millionnaires lorsqu'ils sont venus se réfugier en France, par exemple.
Mais c'était pas loin, on y venait à pied.
Oui, tout à fait, mais...
Mais attendez, je vous interromps là, parce que je suis interrompu par notre ami qui passe son bobineau.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement. Pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Voilà, nous sommes de nouveau entre nous deux, avec le micro, et nos chers auditeurs de Radio Courtoisie, qui nous suivent peut-être encore depuis le début, depuis une heure presque. Voilà, nous en sommes toujours à votre plan. Comment voyez-vous sa mise en œuvre si vous... Avec quel réseau, etc., si vous étiez élu?
Déjà, il faut se dire que ça va pas, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain.
Non, c'est dur, ça.
On est bien d'accord.
C'est très dur. Ouais.
Ça va être compliqué, parce qu'il va falloir réussir à se mettre autour d'une table, discuter et faire comprendre qu'on est sur du gagnant-gagnant et que non pas sur un esprit de domination d'un sur les autres ou d'autres sur un, bien entendu. Donc ça va demander aussi de choisir des points d'appui. C'est là aussi qu'il va falloir être capable de jouer avec les susceptibilités des uns et des autres. Mais aujourd'hui, si on veut faire les choses sérieusement, il va falloir d'abord travailler avec un petit cercle et au fur et à mesure l'élargir. Et ce petit cercle aujourd'hui, il passe par le Maroc. Et donc, tout à l'heure, nous parlions de l'Algérie. Donc, si on commence à travailler avec le Maroc, ensuite, il va falloir voir comment on peut travailler avec l'Algérie, parce que les relations entre les deux pays ne sont pas forcément des meilleures. Ensuite, il va falloir s'appuyer, concernant l'Afrique de l'Ouest, sur la Côte d'Ivoire, travailler le Madagascar pour tout ce qui va concerner l'océan Indien et l'Afrique de l'Est. Donc, ça va être un travail de cercle. On va élargir le cercle au fur et à mesure. Et si vous me permettez l'expression, ce serait un peu la technique de l'escargot. On va partir du centre et au fur et à mesure de l'escargot.
Ah, de l'escargot.
Vous voyez, donc on part du centre et au fur et à mesure on va élargir, comme l'escargot agrandit sa coquille, on va élargir ce cercle de l'Union francophone. Mais donc c'est un travail de longue haleine et qui normalement devrait commencer en fait dès aujourd'hui avec les différents États et ensuite petit à petit les amener à une entente, comme je le disais, qui va devenir une entente économique, de développement culturel, mais aussi de développement industriel, etc. La partie la plus compliquée sera la partie qui va concerner la défense, parce que là-dessus, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais avec un argument aussi de poids, certains pays européens, notamment l'Allemagne, souhaiteraient que la France partage son siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ben voyons, comme vous dites. Comme la force de frappe.
Voilà. Mais, ben voyons, mais moi je dis, mais justement, avec l'Union francophone, osons donner la parole aux francophones au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire ne pas partager notre siège parce que ce n'est pas possible, mais de porter leur voix via notre siège au sein de cette instance importante aujourd'hui dans les relations internationales.
Les élites, entre guillemets, françaises, qui pensent encore domination, sont en, je pense, heureusement, en diminution, et c'est ce qui peut favoriser cette diminution-là forte, parce qu'on s'est rendu compte que si on continue, ceux des élites qui pensent domination dans les pays africains, ils se rendent compte qu'il y a des concurrents. Mmh. Bon, ils sont là, les concurrents.
Oui.
Bon, et on ne les chasse pas comme ça. On ne les chasse pas en disant on veut faire une domination contraire. C'est évident. Bah. Alors, cette souplesse qu'on est bien, que ces élites-là sont bien obligées d'acquérir, ça va forcément grandir. Les gens se rendent compte qu'il faut effectivement agir autrement.
Bah, oui.
Et dans le sens que vous indiquez. Donc ça va peut-être réduire la durée de votre installation, si j'ose dire.
C'est possible, mais il faut s'appuyer en fait sur ce qui a fait notre force. Et notre force, effectivement, ce n'est pas une force de domination. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, c'est le donnant-donnant, c'est le développement économique. C'est l'aide qu'on apporte, mais une aide qui doit être gagnant-gagnant et pas non plus dans un seul sens.
Hein. Voilà, exactement.
Attention,
oui,
hein. Aider les pays francophones, ce n'est pas simplement leur faire des chèques en blanc et sans contrepartie. C'est du gagnant-gagnant, nous sommes bien d'accord.
C'est pas un achat de complaisance.
Mais nous, ce que nous n'avons pas compris,
ça ne doit plus être des achats de complaisance.
Ça, et puis
de la complaisance,
tout à fait. Et ça ne doit pas être non plus pour nous une façon d'imposer des choses qui ne sont pas dans la vision de nos pays partenaires. Lorsque les Chinois vont construire le chemin de fer entre Djibouti et l'Éthiopie, ils ne rentrent pas dans les problèmes de politique nationale. Eux, ce qui les intéresse, c'est une voie ferrée pour le business, excusez-moi ce terme-là, pour le marché.
C'est clair.
Mais donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais par contre, il faut aussi avoir un autre regard. Vous aviez employé un terme intéressant dans un des courriers que vous m'aviez adressé en parlant de certains candidats qui parlent de refrancisation. Alors moi, refrancisation...
Certains candidats, oui.
Oui, moi, ça me pose un peu problème parce que je ne sais pas ce qui se cache derrière. Refrancisation, si on va au pire du pire, c'est...
Oui, non, je ne crois pas qu'ils en soient là.
J'ose espérer, mais pour moi, la refrancisation, vous voyez...
Philippe de Villiers, c'est lui qui parle de ça. Il ne pense pas à remettre les anciennes colonies sous la France.
Ouais, mais tout comme je pense qu'il ne faut plus aujourd'hui se contenter qu'un Français n'est pas forcément que blanc et que catholique. Le français est divers, mais par contre, par rapport à la francophonie, comme on disait, demain, nous sommes attachés à la langue française, et je suis fortement attaché à la langue française, mais il se trouve que si on faisait des mathématiques, mathématiquement parlant, l'avenir de la langue française, il ne se trouve pas forcément que à Paris. Il se trouve, encore une fois, sur le continent africain. Et donc, si demain on veut qu'on continue à trouver des ouvrages de Balzac, des ouvrages de Senghor, avec des gens qui sont capables de les lire, ben, il faut élargir nos frontières. Et attention, quand je parle de frontières, je parle de frontières linguistiques, bien entendu. Je ne parle pas de nos frontières.
C'est évident, mais nous sommes sur la même longueur d'onde.
J'avais bien compris et c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation parce que je pense que ça fait longtemps que vous surtout vous menez ce combat pour la francophonie. Moi modestement je suis venu m'y raccrocher que sur le tard quelque part, mais ce combat pour moi est important parce qu'on ne peut pas aimer la langue française sans voir plus loin que nos frontières naturelles, parce que la France elle est partout. Et puis encore une fois, rappelons-nous que toutes les révolutions qui ont été menées dans le monde, elles ont quasiment toutes été par la langue française. Ou en tout cas avec des Français, que ce soit en Amérique du Sud ou ailleurs. Ou je pense au printemps de Prague où ils chantaient la Marseillaise. Je pense aux Chinois sur la place Tiananmen où certains chantaient la Marseillaise lorsqu'ils se faisaient écraser par les chars de leur propre pays. Donc le français, c'est aussi ça. C'est cet esprit de liberté. Bon, bien entendu aussi de fierté, parfois un peu... Un peu gasconne, on va dire, cette fierté gasconne, oui. mais voilà, la défense de la France, aujourd'hui, si on est vraiment amoureux de la langue française, on ne peut pas se contenter de nos frontières de Brest à Nice et de Lille à Perpignan. C'est bien plus large.
C'est tout à fait clair. Et sans esprit de domination.
On est bien d'accord. Du gagnant-gagnant. Je tiens à le préciser, comme le dit mon ami Père de Jon, le colonel de Jon.
J'ai encore combien de minutes, là? Je peux dire au revoir, oui? J'y vais? Bien, pardon, excusez-moi, chers auditeurs, on a parfois conversation à travers les vitres. Ça arrive, c'est par geste. Bien, alors, écoutez, nous en avons terminé avec Monsieur Saforcada, David Saforcada, le président, je le rappelle, de l'appel au peuple bonapartiste. Il représente les bonapartistes dans la campagne présidentielle et il les représente bien. Et avec d'ailleurs des tas de villes. Il avait eu, en 2017, quand il était la première fois candidat, il avait eu 51 voix. C'est-à-dire beaucoup plus que la plupart des candidats connus de l'époque.
Mais j'allais vous dire, quelque part, ça peut être normal parce que tous les Français, enfin quasiment tous les Français, ont été ou sont bonapartistes, mais ils n'osent pas se l'avouer, en fait. Et je le vois tous les jours. Donc, il suffit juste de discuter avec les gens et de leur dire, mais là, vous voyez, ce que vous me dites, c'est bonapartiste.
Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté. Merci de venir la prochaine fois. Et la prochaine fois, je ne sais pas encore avec quel invité ce sera, mais ce sera peut-être, je pense, un des candidats auxquels je songe. Voilà. Merci.
Vous venez d'entendre Le Français en partage, dirigé par Albert Salon, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 29 juin 2026 de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Et je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.